Ce matin, on a célébré des baptêmes et peut-être que plusieurs se sont demandé pendant toute la matinée pourquoi est-ce qu'on tente de couler quelqu'un dans un spa dans une église et que tout le monde a l'air d'être ravi qu'on le fasse. Il faut savoir que le baptême, c'est une pratique, c'est une ordonnance. C'est quelque chose que Jésus nous a demandé de faire. Avant de quitter la terre, Jésus a dit à ses disciples en Matthieu 28, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Pourquoi ? Pour montrer notre foi. Le baptême, c'est montrer à tout le monde que Jésus a changé ma vie. C'est dire « Ma vie ne sera plus jamais la même. » Ma vie a été transformée. C'est dire au monde que tout est nouveau en moi. Ça veut dire que je suis parfait ? Quelqu'un amène quand même. Ça veut dire que je serai parfait tout le long de ma vie, mais Jésus m'a transformé. Jésus m'a touché. Jésus m'a sauvé. Et par le baptême, je montre ma foi et mon engagement à le suivre toute ma vie. Et ce matin, on a entendu des témoignages, des histoires de vie de personnes qui ont connu une véritable transformation par Jésus. Et je voulais voir avec vous une autre histoire dans la Bible d'une personne qui, elle aussi, s'est faite baptiser. Et ce matin, je suis sûr que cette histoire, elle peut avoir un lien avec toi. Et on va retrouver ce témoignage de vie dans le livre des Actes des Apôtres. Si t'es pas à l'aise avec la Bible, le livre des Actes des Apôtres se trouve dans le Nouveau Testament. C'est le livre des Actes des Apôtres nous raconte la naissance de l'Église, les premiers chrétiens, les premiers missionnaires. On voit dans le livre des Actes des Apôtres une suite de conversions, des suites de conversions dans un contexte de société où on refusait le christianisme, où on voulait pas du christianisme. Ça fait plus de 2000 ans que les sociétés résistent au christianisme, mais ça n'a jamais empêché à Jésus de faire grandir son Église. Amen. Je m'attendais à un amen un peu plus franc, mais c'est pas grave. Le texte qu'on va prendre ce matin, il est un peu long, mais je pense que c'est important qu'on le lise dans son ensemble. Il se trouve en Actes 8. Il est écrit « Un ange du Seigneur dit à Philippe, Philippe qui était l'un des 12 disciples de Jésus, « Tu vas partir en direction du sud sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. » Philippe n'avait pas de Google Maps pour lui indiquer la direction où il devait aller, mais il y avait un ange pour lui dire où est-ce qu'il devait aller. Quand même pas pire, quand même. Puis Philippe partit aussitôt. Et sur son chemin, un homme se présenta. C'était un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire, premier ministre, chargé d'administrer les trésors de Candace, la reine d'Éthiopie. Il était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Et il retournait chez lui. Assis sur son char, il lisait le livre du prophète Ésaïe. C'est un livre qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et le Saint-Esprit dit à Philippe, « Va rejoindre ce char. » Philippe s'en approcha en courant et entendit l'Éthiopien qui lisait le livre du prophète Ésaïe. Il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit, « T'es qui, toi ? Pourquoi tu viens me parler ? J'ai pas besoin de ton aide. » Heureusement, l'Éthiopien ne réagit pas comme moi. L'homme répondit, « Comment pourrais-je comprendre si personne ne m'éclaire ?» Et il invita Philippe à monter sur le char pour s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été comme une brebis qu'on mène à l'abattoir, comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tond. Il n'a pas dit un mot, il a été humilié et n'a pas obtenu justice. Qui pourra parler de ses descendants ?» car on a mis fin à sa vie sur terre. Le fonctionnaire demanda à Philippe, « Je t'en prie, dis-moi de qui le prophète parle-t-il ainsi, est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe prit la parole et en partant de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ils continuèrent leur chemin et arrivèrent à un endroit où il y avait un spa. Le fonctionnaire dit alors, « Voici un spa, est-ce que je peux me faire baptiser ?» Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. » Et l'homme répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Puis il fit arrêter le char. Philippe descendit avec lui dans le spa et il le baptisa. Amen. Dans cette histoire, on voit deux personnes. On voit Philippe et on voit un Éthiopien eunuque. Et on va prendre le temps de s'intéresser à lui ce matin. Qu'est-ce qu'on sait de lui ? Il est éthiopien. Donc, il vient pas du chemin Chambly à Longueuil. Il vient d'Éthiopie. J'ai beaucoup fait d'études pour arriver à cette conclusion. Et à l'époque, l'Éthiopie se trouvait juste en dessous de l'Égypte. Pas exactement là où ça se trouve. Aujourd'hui, c'était juste en dessous de l'Égypte. Autrement dit, là, Philippe, un juif, va parler à un étranger. Et c'était pas la coutume des juifs de le faire. Les juifs n'aimaient pas parler aux étrangers. Les juifs ne s'associaient pas à des étrangers. Ça prenait un ange pour dire à Philippe, va parler à ce gars-là. Ils n'avaient rien en commun. Ils n'avaient rien en commun d'un point de vue culturel, mais aussi n'avaient rien en commun d'un point de vue intellectuel. Parce que, deuxièmement, ce qu'on sait, lui, c'est qu'il était ministre des finances de son pays. C'était le directeur financier, le premier ministre de son pays. Il est tout en haut des personnes les plus influentes, les plus importantes de son pays en Éthiopie. C'est un homme puissant. Il est extrêmement riche. Mais il a dû payer pour avoir cette richesse-là et cette position-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le mot grec pour désigner le mot eunuque, c'est le même mot grec qu'on utilisait à l'époque dans les tribunaux méditerranéens pour désigner un premier ministre. Et je dis bien à l'époque. N'allez pas dire que Pasteur Florian dit que François Legault est un eunuque hein, ce matin. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, que si vous étiez une personne de classe moyenne, de basse classe sociale, et que vous voulez vous élever au niveau de tout le monde, rejoindre les grands de ce monde, vivre le American Dream, pretty woman, rejoindre les grands, être riche, on ne vous faisait pas confiance. Les rois de l'époque ne faisaient pas confiance aux hommes. Simplement parce que les rois, les autorités royales à l'époque, ils avaient ce qu'on appelait des harems. C'est-à-dire qu'ils avaient des dizaines et dizaines de femmes rien que pour eux. Et le partage allait que dans un sens et pas dans l'autre. Ça prend parfois des centaines de femmes pour supporter un homme. Je m'attendais à des amens féminins, mais c'est pas grave. Et pour gagner la confiance des autorités royales, il fallait généralement que l'homme de basse classe sociale accepte de se faire castrer. Que les hommes disent « aïe aïe ». Les hommes d'une basse classe sociale ne pouvaient pas atteindre la cour royale seulement en acceptant de sacrifier leur partie génitale comme si c'est une preuve « je ne coucherai pas avec l'une de tes femmes, tu peux me faire confiance ». Et là, je vois un peu tous les hommes qui sont un peu mal à l'aise. Combien sont heureux de se dire qu'on n'a pas besoin d'être riche aujourd'hui et de vivre cet effet-là en bas. Mais quand on y pense, aujourd'hui, on n'a peut-être plus besoin de sacrifier nos organes pour atteindre les sommets, et merci Seigneur pour ça. Mais généralement, toutes les personnes qui atteignent la réussite sociale sont obligées de sacrifier quelque chose. Sacrifier leur famille, leurs relations, leurs enfants. Désolé, on se voit pas ce soir, je travaille. J'ai pas le temps de jouer avec toi. Faut que je travaille. Sacrifier aussi peut-être leur éthique, leur âme, en faisant des compromis, en manipulant, en mentant, en écrasant les autres pour accéder à une position supérieure. Je ne sais pas si vous avez vu le film The Social Network. Je l'ai vu cette semaine et c'est incroyable de voir que pour atteindre le sommet, Mark Zuckerberg a dû écraser des gens. Il a fait mal à des amis. Et aujourd'hui, on doit encore parfois être un eunuque pour atteindre le sommet. Ça n'a pas tant changé. Puis la troisième chose qu'on apprend de lui, il est étranger, il est riche et eunuque. Mais en plus de ça, il est malheureux. Cet homme a tout. Il a toute la richesse qu'on pourrait rêver d'avoir. Il a le nombre d'abonnés sur Instagram que tu rêves d'avoir. C'est un influenceur. Il est VIP. On ne lui dit jamais non. Il roule en Bentley. Et encore, c'est pas lui qui conduit, c'est un chauffeur qui conduit. Quand il voyage en classe business. Il n'a pas le siège qui lui rentre dans les genoux. Il n'est peut-être pas marié, mais il vit la célébrité et la notoriété que beaucoup rêvent d'avoir. Mais le problème, c'est qu'il est spirituellement vide. Il n'est pas comblé. Il y a quelque chose en lui qui lui manque. Il rêvait d'atteindre le sommet, puis une fois qu'il l'a atteint, il s'est rendu compte, ça ne me suffit pas. J'ai l'argent, mais ça ne me suffit pas. Et combien de personnes encore aujourd'hui, on peut voir, ils ont tout. Ils ont juste tout, mais ils rêvent toujours d'avoir plus, comme si ça pouvait combler le vide qu'il y avait en eux. C'est pas suffisant. Puis là, depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il est spirituellement vide, et puis vous dites peut-être, mais comment tu le sais, ça, pasteur? La Bible nous dit que cet homme vient d'Éthiopie. Et il est allé jusqu'à Jérusalem pour adorer Dieu. Cet homme a fait des centaines de kilomètres. Même s'il était dans un char, on s'entend que ce n'était pas une roulotte avec la climatisation intégrée. C'était des longs trajets, pénibles, poussiéreux, fatigants. On estime qu'il y a à peu près 10 jours de voyage. Cet homme a décidé de se dire, je vais prendre des vacances, je vais prendre de mon temps personnel et au lieu d'aller à Dubaï dans un hôtel 5 étoiles, je m'en vais à d'autres chameaux pour adorer un dieu. Imaginez même ses amis. Bro, qu'est-ce que tu fais? T'as pété une coche? Si tu veux adorer Dieu, on a plein de dieux chez nous. Va pas si loin. Un peu peut-être comme tes amis quand tu leur as dit que dimanche matin, tu es allé à l'église parce qu'il y a des baptêmes. Tu vas te lever tôt pour aller à l'église un dimanche matin? Qu'est-ce que tu fais? Cet homme décide de partir dans un voyage long et dangereux parce qu'il n'est pas satisfait de sa richesse. Il n'est pas satisfait des idoles qui sont dans son pays, des idoles qui sont dans son cœur. Et maintenant, comment on sait qu'il est malheureux? Comment on sait qu'il est malheureux? Parce qu'il est censé avoir adoré Dieu, la Bible nous dit. Il est monté jusqu'à Jérusalem pour adorer Dieu, puis là, il est sur le chemin du retour. Il est censé avoir adoré Dieu et vivre quelque chose de fort. Imaginez l'eunuque arriver à Jérusalem après 10 jours de transport pénible. T'es fatigué, tu pues, t'es sale, t'es poussiéreux. Mais tu vas enfin avoir ce que tu cherches. Ton âme est vide, je vais enfin avoir ce que je cherche. Puis une fois devant le temple, on lui dit non, interdiction d'entrer. Pourquoi? À l'époque, il y avait différentes règles pour pouvoir entrer dans un temple. Une des règles, c'est par exemple, faut pas avoir une maladie contagieuse pour éviter de contaminer tout le monde. Une autre règle, c'est qu'on interdisait les collecteurs d'impôts de rentrer dans le temple parce que les Juifs haïssaient au plus profond d'eux-mêmes les collecteurs d'impôts. Mais surtout, le temple était interdit d'accès pour toutes les personnes qui avaient les parties génitales mutilées. À cause de sa condition sexuelle, on lui a refusé l'accès au temple. Cet homme est rentré chez lui aussi vide qu'il est venu. Mais en plus de ça, il a été déçu. Déçu par la religion. Comme beaucoup de personnes peut-être ce matin. Comme toi ce matin. Combien se plongent dans la religion parfois pour combler leur vide et sont déçus? Parce que la religion ne comble pas le vide. Comme avec Hugo ce matin. Il y en a qui se plongent dans la méditation, dans le bouddhisme, qui essaient de combler quelque chose, de trouver quelque chose à l'extérieur d'eux pour essayer de combler leur âme. Mais ça marche pas. Ça ne marche pas. Combien se sentent rejetés par leur religion? Peut-être que toi, la religion t'a déçu. Peut-être même que l'église t'a déçu. Les chrétiens t'ont déçu. Peut-être même que t'as une mauvaise image de Dieu, t'as été déçu de lui parce qu'il a pas répondu à tes attentes. Et t'es vide. T'es frustré. Comme cet homme qui rentre chez lui. Mais malgré tout, on voit sa soif. Il a tellement soif, il est tellement déçu, mais il a encore soif que sur le chemin du retour, il lit un livre qui se trouve dans l'Ancien Testament, le livre d'Ésaïe. Et alors qu'il lit, il tombe sur Ésaïe 53. On l'a lu tout à l'heure, il a été mené, il a été comme une brebis qu'on mène à l'abattoir, comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tond. Il n'a pas dit un mot. Et c'est à ce moment-là que Philippe arrive. L'eunuque, il ne comprend pas. Qui peut lui donner l'espoir? Qui peut le combler? Qu'est-ce qui peut combler le vide en moi? Et c'est à ce moment-là que Philippe arrive et explique l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, qui a amené au baptême dans le spa de l'eunuque. Et j'imagine tellement Philippe commencer à expliquer l'évangile en lui disant, mon ami, c'est pas ta position sociale qui te rendra heureux. C'est pas ton identité sexuelle qui te rendra heureux. Ce n'est pas ta richesse, ta renommée, tes followers qui te rendront heureux. C'est même pas ton travail, c'est même pas avoir une famille, c'est même pas adorer Dieu dans un temple qui va venir combler ta soif. Il y a une seule personne qui pourra le faire. Une seule personne, et son nom c'est Jésus. Une seule personne qui est capable de le faire, et c'est Jésus. Peu importe ce que tu fais de bien ou de mal dans ta vie, t'es pécheur. Et là, je m'adresse à vous ce matin. Tu es pécheur. Je suis pécheur. On est tous pécheurs. Et je suis désolé de t'insulter avec un mot du Moyen-Âge ce matin. Tu n'avais peut-être pas prévu ça aujourd'hui, en venant à l'église, de te faire insulter. Mais tu ne peux pas saisir la bonne nouvelle que Philippe est en train d'enseigner à l'eunuque si tu ne comprends pas d'abord la mauvaise nouvelle. Nous sommes pécheurs ce matin. Et péché, ça veut simplement dire manquer la cible. Comme un tir à l'arc. Je rate la cible quand je tire à l'arc, je pêche, j'ai raté la cible. Péché, ça veut dire rater le plan parfait que Dieu a prévu pour toi. Vous savez, aujourd'hui, je trouve qu'on a tendance à se comparer un petit peu aux autres pour estimer notre valeur, pour savoir qu'est-ce qu'on vaut par rapport aux autres. Par exemple, si je me compare à une personne qui vit dans un bidonville en Inde, je vais dire je suis extrêmement riche parce que cette personne n'a rien. Par contre, si je me compare à Elon Musk, je suis pauvre. Je n'ai rien. Quand je suis sur Instagram, je peux tomber sur une photo qui me fait dire « Oh, ma vie est tellement mieux que la sienne. » Puis il suffit juste que je scrolle et que je passe à une deuxième photo pour dire « Ma vie est tellement misérable par rapport à la sienne. » Et quand je dis que t'es pécheur, peut-être que tu dis « Non, non, mais moi, je suis une bonne personne. Moi, je suis cute. » Je suis gentil avec les gens. Je suis patient. Je suis même venu à l'église ce matin. Je suis généreux. Je suis pas comme mon patron. Je suis pas comme mon collègue qui critique tout le monde. Je suis pas comme ma femme qui me demande toujours de ranger mes chaussettes. Je suis pas comme mon voisin qui me prend toujours l'espace sur mon stationnement. Je suis pas comme telle personne. Je suis pas comme telle personne. Moi, je suis une bonne personne. Mais si ce matin tu commençais à te comparer à Dieu, si ce matin tu commençais à comparer le plan parfait que Dieu avait prévu pour toi à ta vie aujourd'hui, qu'est-ce que tu verrais? Oh, Dieu n'avait pas prévu que je mente à ce moment-là. Et quand je regardais ma vie, j'ai menti. J'ai dit à ma femme que sa robe lui allait bien. Quand je regarde au plan parfait de Dieu, je vois que j'arrive à garder mes yeux quand même purs. Et puis là, quand je vois ma vie, je réalise, hey, ma secrétaire, j'ai quand même passé du temps à la regarder quand elle s'est penchée devant moi. J'ai l'envie pour ma voisine, j'ai l'envie pour mon voisin. Je suis jaloux de ce qu'il possède, je suis jaloux de ça. Je critique en fait les gens. Si tu compares ta vie à Dieu qui est parfait, si tu compares ta vie au plan parfait que Dieu a prévu pour toi à la base, tu vas réaliser une chose, c'est que t'es pécheur. Et on le sait mine de rien parce que tout le monde dit la merveilleuse phrase, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Et la Bible nous dit cette mauvaise nouvelle, c'est que la conséquence de notre péché, c'est la mort. On est condamné. On doit payer le prix de nos fautes. Comme un voleur, comme un assassin qui doit payer son crime, nous devons payer notre crime devant Dieu. T'es dans le couloir de la mort ce matin. Je sais pas si vous avez vu le film La Ligne Verte. Très bon film. Un vieux film, très bon film. Ou alors lisez le livre. Mais t'es dans le couloir de la mort ce matin. Il n'y a pas d'espoir. Peu importe les bonnes choses que tu peux faire en prison, tu restes en prison et tu restes condamné. Peu importe si t'es gentil avec ton voisin de cellule dans la prison, tu restes condamné. Peu importe si tu pries dans la prison, tu restes condamné. Il y a un prix qui doit être payé. La condamnation reste toujours là. C'est pas ça qui peut te sauver, c'est pas les bonnes actions. C'est même pas venir à l'église qui peut te donner un espoir. T'es dans le couloir de la mort à cause de la dette qui est sur ta vie. Et cette dette-là, il n'y a rien qui peut la payer. C'est impossible à la payer. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu le sait. Dieu ne veut pas te laisser tomber. Dieu veut te donner un moyen de sortir de cette prison-là. Et Dieu a décidé de venir sur terre. Dieu s'est incarné. Jésus a marché sur terre. Il est venu vivre la vie parfaite qu'on est incapable de mener. Pour un seul but, aller sur la chaise électrique à ta place. Te dire, sors de prison, je prends le prix. Je paye ta dette, je paye ta condamnation, je paye tes péchés, je paye tes erreurs. C'est moi qui vais prendre tout ça. C'est moi qui vais porter tout ça. Jésus est venu prendre ta place dans le couloir de la mort pour te rendre libre aujourd'hui. Il faut que tu saisisses cette vérité que Dieu t'a tellement aimé. Il ne l'a pas fait parce que tu étais beau. Je suis sûr que tu es très beau, tu es très belle. Mais il ne l'a pas fait parce que tu étais beau ou que tu étais belle. Il ne l'a pas fait parce que tu étais quelqu'un de bien. Il l'a fait parce qu'il t'aimait. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son fils. Cet agneau innocent dont le texte en Ésaïe nous parle. Jésus a souffert à la croix. Il a payé le prix que tu étais censé vivre. Jésus a donné ta vie pour toi qui te sens vide ce matin. Pour toi qui cherche un sens à ta vie. Jésus a donné ta vie, sa vie pour toi qui est fatigué, comme cette eunuque. À chercher cette réponse. Pourquoi je suis sur cette terre? Qu'est-ce qui peut me combler? Qu'est-ce qui peut satisfaire mon cœur? Pourquoi est-ce que je me sens vide? Qui peut me changer? Qui peut me donner un truc nouveau? J'ai besoin d'être vivant. Moi, je sens qu'il y a quelque chose de plus. Il y a un vide en moi, comme Hugo disait, il y a un vide, j'essaie de caser quelque part des choses dans mon cœur, mais il n'y a rien qui fonctionne. Qu'est-ce qui peut me satisfaire? La réponse, c'est Jésus. Et les baptisés sont passés par les eaux du baptême, comme cette eunuque, parce qu'ils ont réalisé qu'ils étaient pécheurs et que Jésus est mort pour eux. Jésus a donné sa vie pour eux. Jésus est venu prendre ta place dans le couloir de la mort. Jésus est mort pour toi. Peut-être que tu ne comprends pas le vide que tu ressens. Peut-être même que tu te sens disqualifié parce que tu as fait des erreurs dans le passé. Tu dis, mais comment quelqu'un peut m'aimer alors tout ce que j'ai fait, tout ce que je suis? Peut-être que ton passé te disqualifie aux yeux de la religion, mais ton passé ne te disqualifiera jamais aux yeux de Jésus. Peu importe ce que tu as fait, que tu sois un voleur, un manipulateur, un assassin, un drogué, une prostituée, que tu aies écrasé tout le monde pour atteindre les sommets, même que tu te sens pas si pire finalement, Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Alors que tu en as peut-être qui te désignent du doigt là, ils se moquent de toi. Peut-être qu'il y en a qui te critiquent, peut-être qu'il y en a qui te jugent en te pointant du doigt. Jésus ne te juge pas ce matin. Jésus ne te condamne pas ce matin. Jésus te lance la même invitation qu'il l'a fait à l'eunuque aujourd'hui. Est-ce que je peux monter dans ton char? Est-ce que je peux venir dans ton cœur? Est-ce qu'il y a assez de place pour moi dans ta vie? Est-ce que je peux te sauver ce matin? T'as pas besoin d'être parfait. T'as juste à venir avec ce qu'on appelle le mot repentance. J'aime ce que Charles Rye, un évêque anglais, a écrit au 19e siècle. Il a dit que celui qui désire être sauvé sache aujourd'hui même que le premier pas vers le ciel passe par une profonde conviction de péché et une modeste conception de soi-même. Qu'il rejette la tradition banale et stupide qui veut que la religion soit réservée à ceux qui se sentent bons. Et je pourrais me rajouter qu'il rejette la tradition banale que la religion, c'est une béquille pour les faibles. L'eunuque, il avait absolument tout. Il n'avait pas besoin de béquille. Il n'y a rien de faible que de reconnaître qu'on a besoin de quelqu'un de supérieur pour nous changer, pour nous aider dans notre vie. Il n'y a rien de faible. Et il continue. Mais que cette personne s'accroche plutôt fermement au grand principe biblique selon lequel nous devons commencer par nous reconnaître mauvais. Tant que nous ne nous sentons pas mauvais, nous ne savons rien de ce qui est vraiment bon, ni de la puissance du salut du christianisme. Et ce message-là, ce matin, c'est pas uniquement pour les nouveaux, là. C'est aussi pour la personne qui suit Jésus depuis 30 ans. Ou plus encore. Si le message de la grâce que Jésus te donne à chaque jour te laisse de marbre parce que tu connais ce message par cœur, tu manques quelque chose. On doit être constamment ébloui par l'amour, par la grâce, par le sacrifice que Jésus a accompli pour nous à la croix. Peu importe si on entend ce message à tous les dimanches. La repentance, c'est pas uniquement pour le début de la vie chrétienne. Là, je m'adresse à ceux qui ont l'habitude de venir à l'église, qui prient, qui viennent à l'église fréquemment, qui ont une vie chrétienne. Ça fait combien de temps que tu t'es pas approché de Jésus avec repentance? C'est pas juste réservé aux nouveaux pour les baptêmes. C'est quand la dernière fois que tu es venu à lui que tu lui as pas dit « Je te demande pardon. Je te demande pardon. Parce que j'ai péché. Je suis pas parfait. Le baptême ne rend pas parfait. » On est constamment sur un chemin où on tombe, où on chute, on essaie d'être parfait, mais on n'est pas parfait. Et je ne parle pas de demander pardon comme quand on force un enfant à aller demander pardon. Pardon. Je peux continuer à jouer? Demander pardon, la repentance devant Dieu, c'est faire un 180 degrés. Je m'en vais dans cette direction-là, Seigneur, et je réalise à quel point, non, je ne peux pas, je me repens. Je fais un 180, je me retourne, j'arrête d'aller sur cette voie-là, j'arrête de regarder ce genre de choses, j'arrête de critiquer, j'arrête de juger, j'arrête de condamner, j'arrête d'être aigri, mais aide-moi. Mais ce que j'observe dans la vie chrétienne, c'est que bien souvent, on est tellement habitué à entendre ce genre de message que quand on vit la repentance, quand on fait un moment de repentance, on ne fait pas un 180, on fait un 360, je vais y arriver. C'est-à-dire, on fait « Oh Seigneur, je te demande pardon, ok, je comprends, c'est pas bien. » Et puis, on continue à faire ce qu'on fait. On change pas. On n'arrive pas à changer parce qu'on n'est plus ému par la grâce. On réalise pas le sacrifice que Jésus a payé pour nous. C'est Paul qui nous dit en Romains 6, verset 15, « Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu ?» Certainement pas. Parce qu'on réalise à quel point notre salut a tout coûté à Jésus. La croix a tout coûté à Jésus. Ça lui a coûté une souffrance dont tu ne peux même pas imaginer. La croix, c'est un instrument de torture par les Romains, que même les Romains, on n'osait pas les crucifier eux-mêmes. C'était que pour des esclaves, c'était que pour des personnes qu'on dénigrait tellement que c'était affreux. Des fois, on voit la belle image de la croix, avec juste Jésus puis quelques coups. Jésus était défiguré à la croix. Jésus était probablement nu à la croix. Jésus a été abusé. Il a vécu une torture. Une torture que tu peux même pas imaginer physiquement, mais spirituellement, parce qu'en même temps, il prenait tes fautes. Il prenait ton péché. Il prenait tes erreurs. Il prenait tout ce que tu fais de mal. Ce qu'il a fait tenir à la croix, c'est pas les clous dans ses mains, c'est pas les cordes dans ses, qui le liaient à la croix. Ce qu'il faisait tenir à la croix, c'est toi. Je sais pas quel sentiment de valeur tu te donnes à toi-même, mais Jésus, t'as tellement de valeur à ses yeux qu'il a donné sa vie pour toi. T'es précieux. T'es précieuse à ses yeux. Et à chaque bouffée d'air qu'il essaie d'avoir, parce que la croix, ça t'empêche de respirer, à chaque bouffée d'air, il pensait à toi. Je peux pas lâcher. Parce que son salut est en jeu. Sa vie est en jeu. Tu ne peux pas juste vivre ta vie en mode 360, comme si de rien n'était. C'est Gaëtan Brassard qui dit que la repentance n'est pas suffisante. Dieu veut le fruit de la repentance. Est-ce que tu portes le fruit de la repentance ce matin? Ou est-ce que tu stagnes toujours au même niveau, toujours au même niveau? Aigreur, colère, jalousie, envie. C'est quand la dernière fois que tu n'as pas pris un temps devant Dieu pour lui dire « Seigneur, révèle-moi mes fautes, pardonne-moi et change-moi, remplis-moi. » On a tous une réponse à donner à ce message ce matin. Ce n'est pas que pour les nouveaux, c'est pour tout le monde. On a tous une réponse à donner, à dire « Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis pécheur. Pardon pour mes erreurs. Apprends-moi à changer. Remplis-moi ce matin. »